Ben, c'est Isabelle Ducharme qui est là. Hey,
Absolument.
je ne savais pas que... Bon, je savais là, que vous aviez été honoré à l'Assemblée nationale pour... c'est quoi, c'est bénévole de l'année?
Oui.
Mais je savais pas qu'on avait débouché le vin du côté de Kéroul.
Oui, ça a été très sympathique.
Ben oui, j'ai
D'abord,
lu ça ce matin.
la nomination, le prix m'a été remis, mais c'est vraiment Kéroul qui a fait toute la démarche de nomination. Et effectivement, j'ai trouvé ça très, très gentil d'avoir fait ce petit soulignement en compagnie des gens du conseil d'administration, les employés, tout
Je suis un peu en retard, là. Ça fait 9 jours, mais j'ai lu ça ce matin. Alors,
ça.
on cause, puisque vous êtes animatrice et formatrice depuis déjà 6 ans là, au Centre universitaire de santé McGill, de ces ateliers pour aider les gens atteints de douleurs chroniques. On a commencé à en parler la semaine dernière, peut-être d'ailleurs qui serait utile pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux comme moi qui s'en souviennent pas, que vous nous fassiez un petit résumé.
Oui, en fait, juste pour préciser, c'est un programme qui est offert aux gens qui ont des conditions chroniques. Donc, ça inclut les gens qui ont des douleurs chroniques, mais également toute personne qui aurait des problèmes de cœur, d'arthrite, des blessés médulaires, des gens qui ont la sclérose en plaques, etc. Et donc, c'est le bonheur de ce programme puisqu'il est ouvert à tous. Il est gratuit. Et il est assez formateur, transformateur de vie pour ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc, en gros, ce que je voulais rappeler qu'on a discuté la semaine passée, c'est que il y a des piliers à ce programme-là. Le premier étant qu'on a une espèce de boîte d'outils pour nous aider dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on va discuter pendant ces 6 ateliers-là. Donc, ça va de l'activité physique à la gestion des médicaments, la prise de décision, les plans d'action, techniques de respiration, gestion de la pensée, etc. Et tout ça parce que malheureusement, dans la vie, surtout quand on a des conditions chroniques, on a ce qu'on a identifié comme une espèce de le cercle vicieux, mais que nous, on appelle le cercle des symptômes. Et ces symptômes-là, ils s'entre-nourrissent. Donc, parfois, on peut se rendre compte qu'on est un peu dépressif et on se demande un peu d'où ça vient. Bien, ça vient peut-être des émotions difficiles qu'on vit suite à une séparation, suite à un nouveau diagnostic, ou ça peut provenir du stress, de l'anxiété, la douleur, les limitations physiques, le manque de sommeil, la fatigue, l'essoufflement. Et souvent, nos outils vont nous aider à identifier lequel de ces symptômes-là est la cause de mes problèmes et c'est sur quoi on va travailler pour justement arrêter le mouvement de ce cercle-là.
Mais c'est difficile de comprendre l'origine, étant donné que tout ça est interrelié. Comment commencer? Tu sais, faut prendre ça par le début, mais comment trouver le début?
Mais c'est parfois, je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Le meilleur exemple qu'on peut donner, on a l'impression qu'on n'est pas productif, qu'on est un peu pourri à notre emploi. Puis on se dit, mais mon Dieu, comment ça que je ne peux pas être meilleur? Pourquoi je ne suis pas capable d'avoir la performance que je veux? Et peut-être qu'en prenant un peu de recul, on va se rendre compte que ça fait 2 semaines qu'on a des problèmes d'insomnie, qu'on a de la difficulté à dormir, mais peut-être que c'est plus sur le problème d'insomnie. Un moyen de mieux dormir qu'il faut travailler pour ensuite devenir plus productif au travail. Donc, c'est un peu ce genre de réflexion-là qu'on va faire. Et d'ailleurs, c'est là où je vous ai présenté la semaine dernière le plan d'action qu'on va faire revenir à chacune des 6 séances. C'est une espèce de processus, justement, pour choisir des actions et comment les mettre en action. Fait que ça va inclure d'abord de choisir ce sur quoi on veut travailler. Donc, pas ce que les autres nous disent qu'on devrait travailler, mais ce que nous, on veut travailler. Donc, une meilleure chance de succès parce que ça vient de nous. Ensuite, il faut que ce soit réalisable. La semaine passée, je vous disais, si vous avez jamais couru de votre vie, puis vous me dites, la semaine prochaine, je veux courir le marathon, bien, on va peut-être essayer de redescendre un petit peu les attentes. Et par la suite, une fois qu'on a identifié le quoi, bien là, on va dire, pour répondre aux questions suivantes. Le quoi, exactement le définir. Ensuite, combien est-ce que je vais le faire? Ça peut être un temps, une distance, ça peut être une quantité. Par la suite, on va aller dans le quand. Une fois que j'ai décidé qu'est-ce que je veux faire, puis si je vais le faire, mettons, en après-midi, bien là, après ça, on va dire, Est-ce que je vais le faire à tous les après-midi, un après-midi sur deux? Et ensuite, quel est mon degré de confiance de le faire? Et si j'ai un bon degré de confiance, c'est-à-dire que sur 10, si je suis 7 ou plus, ben j'ai de bonnes chances de le réussir. Si je pense que j'ai un degré de confiance de 4 sur 10, peut-être qu'il faut retravailler le nombre de fois qu'on veut le faire ou le nombre de temps qu'on veut le faire pour être sûr que ce soit plus réalisable.
Okay.
Et finalement, le dernier pilier, c'est toutes les étapes de résolution de problèmes. Une fois qu'on a pris une décision, qu'on n'a pas été capable de la réussir, mais là, on va voir quelles sont les autres solutions qu'on pourrait faire pour le réussir. Et là, encore là, on a différentes étapes là, qui peuvent nous aider.
Donc, ça peut être de prendre, disons, un autre chemin pour se rendre au même endroit. Là.
Exactement. Dans les étapes de résolution de problèmes, ce qu'on va dire, c'est une fois qu'on a cerné le problème, parce que des fois, on n'est pas sûr c'est quoi le problème, mais une fois qu'on a trouvé le vrai problème, on se dresse une liste d'idées. On essaye la première. À un moment donné, on évalue est-ce que ça a fonctionné au bout de 2 semaines ou pas. Et si ça n'a pas fonctionné, on essaye d'autres idées qu'on avait. Si parmi les idées qu'on avait, on n'en trouve pas qui fonctionnent, bien, c'est peut-être qu'il faut consulter, peut-être qu'il faut demander à des amis. Toi, tu as déjà eu le même problème. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as fait? Ça peut être consulter un professionnel, peu importe les ressources qu'on choisit. On va les réessayer. Et si jamais, après un bon bout de temps, ça ne fonctionne toujours pas, mais c'est peut-être qu'en ce moment, c'est un problème qu'on ne peut pas régler. Donc, il faut accepter des fois que le problème, il faut le mettre de côté. Des fois, avec le recul, on revient quelques semaines plus tard, puis là, on a la tête reposée, puis on est capable de repartir.
Ouais. Est-ce que je comprends bien en disant que pour la deuxième session, on parle plus d'émotions?
En fait, dans la deuxième session, je vous dirais qu'il y a trois activités principales. La première, c'est la gestion des émotions difficiles. Ensuite, l'introduction à l'activité physique et finalement, prévenir les chutes et améliorer son équilibre. Fait qu'effectivement, je vous dirais que la gestion des émotions difficiles, c'est un des aspects qui interpelle beaucoup les gens. On a souvent des difficultés, qu'on ait des conditions chroniques ou pas, mais
ben
particulièrement quand on a des conditions chroniques, à gérer des émotions difficiles comme la colère, l'incompréhension de ce qui nous arrive, l'espèce de sentiment de pas être aussi performant. Donc, toutes sortes de sentiments négatifs qui nous viennent. Et donc, les gens nous disent, oui, mais comment on fait pour pas se laisser écraser par ces émotions difficiles-là?
Ouais.
Mais la première chose qu'on leur dit d'abord, c'est que c'est normal. Faut pas se sentir moins bon, pas égal aux autres parce qu'on a des émotions difficiles, on en vit tous. Ensuite, les causes peuvent être variées. Là, on fait un exercice en équipe de deux, donc les participants se mettent par équipe de deux et vont raconter à l'autre d'abord, oui, c'est quoi l'émotion difficile, mais quelle en est la cause? Et là, si on comprend pourquoi on vit cette émotion difficile-là, mais souvent, ça va nous aider à travailler justement sur comment mieux gérer cette émotion difficile-là.
Mais pourquoi? Parce que la cause, si elle génère... Souvent, on ne peut pas changer la cause. Là. La douleur chronique est là.
Non, mais par contre, on peut peut-être mieux... si on comprend le pourquoi on se sent d'une certaine façon... Mm-hmm. Mais des fois, on va se dire, admettons là, que, je sais pas moi, mon émotion difficile, c'est la colère par rapport à ma nouvelle situation.
Ouais.
Bien, une fois que j'ai compris ça, puis que ma nouvelle situation, je peux pas la changer, là. Je peux pas enlever ma condition chronique, elle existe. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de rester en colère jusqu'à la fin de mes jours ou je cherche une solution pour... un peu la, tu sais, trouver un aspect positif ou de trouver
changer le focus.
Un renverser la situation.
Ouais.
Fait que parmi les choses qu'on nous dit, dépendant bien sûr de la situation, mais il y a différentes choses qu'on peut faire pour un peu mettre de côté ces sentiments-là. Mais des fois, de faire de l'activité physique ou de l'exercice ou juste sortir de la maison, ça va être quelque chose qui va nous permettre de sortir juste de l'émotion négative, mais d'exorciser un peu cette pensée négative qu'on a toujours dans la tête, de faire des exercices de relaxation, de parler, d'en parler à quelqu'un, d'appeler un ami, de se confier à quelqu'un. Déjà, c'est une façon souvent de ressortir de ce sentiment négatif-là. Je vous dirais aussi ce qu'on nous parle beaucoup de noter ses sentiments par écrit. Des fois, les gens ont tellement de difficultés à communiquer leurs émotions à leur entourage. Ils ne veulent pas leur mettre le poids sur les épaules.
Ouais, ouais.
Ils ne veulent pas avoir l'air trop négatif. En l'ayant écrit, c'est une façon quand même d'exprimer ses émotions et d'être capable peut-être de se sentir moins pris dans le négatif puis dans les émotions difficiles. L'espèce d'idée aussi d'un journal quotidien de gratitude. Je ne suis pas certaine que c'est le bon
ouais,
mot
mais
en
on comprend
français,
bien.
Là.
Ouais, ouais.
Mais cette espèce de...
Des raisons pour être reconnaissant.
Oui,
là.
C'est ça. Y en a qui disent que même aller au lit le soir, si ce n'est pas en l'écrivant, mais au moins en pensant un minimum une chose qui est bien allée dans la journée, bien déjà, on se couche avec la tête moins négative.
OK, je garde ça.
Moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait puis qui ont vraiment senti la différence.
OK.
Donc ça, c'est pour les
Les
émotions
émotions, oui.
Difficiles. Maintenant, pour l'introduction à l'activité physique et à l'exercice,
Hey boy.
C'est une autre situation. Et là, j'essaie de rejoindre le plus de monde possible parce que, vous le savez, moi-même, j'ai déjà essayé d'aller au gym quelques fois, puis j'ai un peu de difficulté avec cette discipline de
Je
déplacement.
comprends, je comprends.
Mais ce qu'on dit surtout, c'est que les gens avec les conditions chroniques ont souvent l'impression « j'ai mal, je suis mieux de ne pas bouger ». Ce qu'on leur dit, c'est qu'on ne vous demande pas, encore une fois, de vous mettre à courir le marathon, mais plutôt à garder en tête de toujours garder un certain mouvement dans le corps. Ne serait-ce que si vous écoutez la télévision pendant un certain bout de temps, bien, pensez à vous étirer un peu de temps en temps, à vous lever à la pause pour aller vous chercher un verre d'eau. C'est des façons de rester quand même actif déjà à la base et d'être moins endolori et d'être plus capable de faire des exercices par la suite. Et quand on parle d'exercices à ce moment-ci, on parle plutôt de donner des exemples de quel type d'exercices peuvent exister. Donc, les exercices d'assouplissement, de développement de la force, puis d'endurance ou d'aérobie. Et là, quand on parle d'assouplissement, ben, on dit essayer d'en faire pendant peut-être 10 minutes. Des espèces de, pas nécessairement du yoga, là, mais c'est un peu l'image qu'on a là, de plus d'étirement. Ensuite, des développements de la force, ben, on dit de 6 à 10 exercices, 2 à 3 fois par semaine, pas à tous les jours. Et c'est la même chose pour les exercices d'endurance. On dit 30 à 40 minutes, bien sûr, encore là, pas à tous les jours. C'est mieux de laisser les muscles pouvoir se relaxer un peu, mais toujours garder en tête que surtout quand on a des conditions chroniques, c'est toujours mieux de consulter son médecin et de voir avec lui est-ce que c'est approprié en fonction de ma situation à moi, mais au minimum de rester actif en bougeant un peu.
Isabelle, il vous reste 45 secondes pour prévenir les chutes.
En fait, c'est surtout de garder en tête que parfois, quand on s'enfarge souvent ou on a des manques d'équilibre, ça peut être intéressant d'aller faire évaluer sa vue et son ouïe. Les gens l'oublient que ça peut être lié à ça. Et faites attention, prenez soin de vos pieds, évitez les talons hauts, évitez les chaussures qui peuvent vous enfarger. Et finalement, tout ce qui peut être encombrant dans la maison aussi, les tapis non adhérents au plancher, là, c'est toutes des causes de chute qui peuvent être évitées.
Et si je veux calmer mon émotion parce que je crains justement la chute, parce que ça aussi, c'est un atout d'être plus confiant, j'imagine.
Oui, en fait, c'est
tout vraiment... ça est interrelié encore.
Absolument.
Ouais.
Absolument.
Ouais. On reprend ça la semaine prochaine?
Absolument.
Isabelle Ducharme qui va comme ça, d'une fois à l'autre, nous aider. Tiens, rapidement là, pour s'inscrire, si jamais il y a du monde qui veut le faire.
My Toolbox.
Moi non plus, je n'étais plus sûr. Je ne l'ai pas. On vous donnera ça la semaine prochaine ou sur le site web. Tiens, on va donner les infos à Kevin. Puis vous pourrez aller cliquer sur la page du mytoolbox.mcgill.ca, nous dit Rémi.